Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Je retrouve avec plaisir ma consoeur et mon amie Sophie Villeneuve. Bonjour Sophie.
Allô Yasmine, comment tu vas?
Ça va bien. Et dis-moi donc, t'en es-tu revenue de l'annonce surprise d'hier de Martine Biron? Parce que j'ai lu l'article deux fois avant de me dire, ben oui, j'ai bien lu la première fois.
Ouais, écoute, j'ai été surprise moi aussi. Agréablement, je dois dire, par exemple, d'abord, je dois dénoncer. J'aime beaucoup Martine Biron, c'est une journaliste avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler.
Je suis coupable, je suis tout aussi coupable que toi. On va se retrouver dans la même cellule.
Ah, écoute, c'est une journaliste qui a toujours vraiment très bien fait son travail, qui, tu sais, de qui on n'aurait pas pu dire, il y a deux journalistes, on va se le dire, ça paraît, leur couleur transparaît un peu plus que d'autres. Martine, j'ai jamais trouvé qu'elle était dans un coin, qu'elle se peinturait dans un coin ou dans un autre. Après de l'avoir prise d'un désir de servir, moi, je trouve ça beau. Peut-être que tu vas me trouver idéaliste ou fleur bleue, mais je trouve ça beau de voir quelqu'un qui a ces qualités professionnelles-là, cette connaissance-là de l'appareil public, des enjeux politiques, décider d'aller servir la population. Pour moi, c'est quelque chose de noble et de grand. Et il y a personne qui va me faire déroger de ça ce matin, surtout pas les partis d'opposition qui s'offusquent de cette nouvelle-là. Je dois dire que pour moi, c'est une belle nouvelle.
C'est drôle que tu dises ça, Sophie. J'avais Dominique Anglade avec moi ce matin en studio, en entrevue, puis j'ai posé la question. En fait, elle exprimait des préoccupations quant au caractère éthique et les questions qu'on devrait se poser de voir des journalistes sauter dans l'arène politique aussi rapidement après avoir quitté leur fonction professionnelle journalistique. Et j'ai demandé si elle aimerait ça avoir quelqu'un de la trempe de Martine Biron parmi ses troupes. J'ai pas eu de réponse, pour être honnête.
Ben non, bien sûr que oui. Bien sûr que tous les partis souhaiteraient avoir des candidatures de cet acabit-là. C'est sûr. Puis, je veux dire, en tant que population, il faut se réjouir aussi de voir ce type d'individu-là avoir le courage de se lancer. On sait le prix que ça a aller en politique. C'est des discussions que j'ai eues avec Bernard Drinville, c'est des discussions que j'ai eues avec Caroline Saint-Hilaire également. Je veux dire, quand tu décides de te lancer, tu sais que ça va avoir un prix, là. D'abord, il faut se dire les choses. Ces gens-là avaient des carrières florissantes, gagnaient très, très bien leur vie et prennent la décision d'aller servir la population, souvent pour un salaire moins élevé, pour une job pas mal plus exigeante. C'est dur, la politique. C'est beaucoup d'heures. Il faut pas compter son temps. Il faut s'investir corps et âme. Il faut faire face à la critique aussi, là. Il faut prendre le vent en tout temps. Et ça, je veux dire, on ne peut que se réjouir et on ne peut que trouver ça noble de voir des gens prendre la décision éclairée de prendre cette direction-là.
Oui, c'est vrai que c'est le fun de voir du monde sauter, mais on peut quand même se poser la question quand on est journaliste et quand, par exemple, on l'a vu avec Bernard Drinville, on le voit avec Martine Biron, et qu'on traite de la chose politique juste avant de se lancer en politique. On peut quand même se poser la question, est-ce que on le savait qu'on partait avec ce parti-là lorsqu'on est parti recueillir des confidences? Je pense quand même que c'est raisonnable de se poser la question.
Oh oui, la question est légitime, t'as raison. Ceci étant, tu sais, il y a tout un contexte, il y a toute une conjoncture actuellement. Là, on l'a vu, un sondage qui est paru hier dans le journal. Je veux dire, les chiffres sont énormes. La coalition est à 44%. La coalition Avenir Québec est à 44% dans les sondages. Moi, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu ça à quelques semaines d'une élection, des chiffres comme ceux-là. Donc, c'est sûr que ça amplifie un peu l'effet après de voir des journalistes se lancer sans qu'il y ait une transition. Mais tu sais, est-ce que tu savais que Martine, ces dernières années, était retournée sur les bancs d'école, avait fait une maîtrise?
Oui.
J'étais au courant de ça. Martine est allée faire une maîtrise à l'ENAP sur les élections à date fixe. Est-ce que ça a été pour elle un moment de se poser des questions? Puis au cours des dernières semaines, elle a même fait, puis peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle a qu'elle a pris son temps de réflexion, est allée couvrir la politique américaine aux États-Unis. Donc, peut-être que ça fait quelques semaines qu'elle est dans cet état d'esprit-là, qu'elle se pose la question. Elle a probablement été approchée pas la semaine dernière. Là, ça doit faire un certain temps qu'elle y réfléchit. La connaissant, elle a dû prendre le temps de peser le pour et le contre. Donc, est-ce que c'est une période tampon suffisante? Bon, après, on peut en discuter. Moi, je pense qu'ultimement, c'est une bonne nouvelle.
Il y a un autre sujet hier qui a peut-être retenu l'attention de certains courageux qui se sont tapés les 90 minutes de débat. Mais le troisième débat conservateur a eu lieu hier soir. As-tu regardé ça, Sophie? Je te dis, je l'ai regardé là, puis juste à y penser, j'ai le goût de faire une sieste.
Oui, non, c'est ça exact. J'ai regardé, pour être 100% honnête, seulement quelques résumés de ça. J'ai avancé plusieurs passages parce qu'effectivement, c'était plutôt ennuyeux. Mais moi, en fait, ça m'a mis en colère. Je suis en colère depuis que je sais que Pierre Poilievre et Leslie Lewis ont été dispensés de ce débat-là.
Ils se sont achetés le droit de ne pas y aller.
Oui, exact. En payant 50 000 $ à quel prix vaut la démocratie dans une course à la chefferie conservatrice?
En fait, la question que je me pose, c'est combien va coûter, si Pierre Poilievre est élu chef du Parti conservateur, il pense que ça va lui coûter combien se défaire de l'ingrate tâche de débattre contre Justin Trudeau? Est-ce qu'il pense que ça va lui coûter 50 000 ou est-ce que ça va lui coûter une élection?
C'est ça, je suis pas convaincue que les sociétés d'État qui présentent les débats pendant les campagnes électorales vont lui faire ce même genre de cadeau de pouvoir payer pour éviter d'avoir à débattre de ses idées. En fait, tu sais, je veux dire, c'est le petit côté radical que ça a, le petit côté très à droite et très l'argent peut acheter tout ça. Tu sais, ça me fait penser à ce qui se passe chez nos voisins du Sud, puis ça rien pour me plaire, là, je dois dire. Puis de voir aussi le ton qu'il a. Tu sais, il a ri, je sais pas si tu as vu, Yasmine, il a ri de l'exercice démocratique. Il est allé tweeter que ses adversaires étaient en train de faire une partie de cartes hier soir. Je veux dire, ça en dit assez long sur le respect qu'il a de la démocratie, Pierre Poilievre.
Mais penses-tu qu'il est arrêtable? Tu penses-tu que les militants conservateurs, puis là, on sait qu'il y en a presque 700 000, là, c'est énorme. Mm-hmm. Penses-tu qu'ils voient ça, qu'ils comprennent ça, qu'ils sont sensibles à ça?
Je suis pas convaincue qu'ils poussent la réflexion jusque-là, malheureusement. Puis je suis pas convaincue non plus. Je pense qu'il y en a pour qui ça fait bien l'affaire de voir Pierre Poilievre se camper dans la posture d'un vainqueur qui ne se soucie pas de ses adversaires. Il voit un peu comme de la puissance ou comme de la force de se comporter de cette façon-là. Je sais pas s'il est arrêtable à la lumière des chiffres que l'on voit puis du nombre de cartes de membres qu'il a vendues, parce que bon, 700 000 membres, Pierre Poilievre a vendu 300 000 cartes de membres, les autres se répartissent les votes. Il y a les 150 000 votes de Patrick Brown, pas vote, mais membre de Patrick Brown qui reste, qui pourrait causer la surprise, qui sait, mais je sais pas s'il est arrêtable. Ce que je sais, c'est que les membres du Parti conservateur ne transmettent pas nécessairement l'opinion de la population canadienne. Puis moi, je pense que le seul à qui ça risque de faire un cadeau, si Pierre Poilievre est élu à la tête du Parti conservateur, c'est Justin Trudeau qui risque de s'en sortir, parce que les modérés vont l'emporter.
J'ai l'impression que le Parti conservateur est un peu à la croisée des chemins et que un Pierre Poilievre va donner des munitions aux libéraux, qu'ils soient menés par un Justin Trudeau, une Chrystia Freeland ou n'importe quel autre candidat qui pourrait succéder à Justin Trudeau. Penses-tu que ça va, une potentielle élection de Pierre Poilievre risque de changer le paysage politique avec la naissance d'un nouveau parti plus progressiste conservateur?
Ouais, un peu à l'instar de ce qu'on avait vu là à l'époque de Stockwell Day et de l'Alliance canadienne. Peut-être qu'effectivement il va y avoir une scission. On n'est pas dans une dynamique comme aux États-Unis où il y a deux grands partis. On a vu émerger au fil des années au Canada aussi des partis davantage à droite. Le Canada est beaucoup plus au centre que peut l'être les États-Unis. Donc ces partis-là vont se créer des franges plus radicales de leur côté. Moi, je pense que oui, inévitablement, je pense que les conservateurs. Puis, tu sais, c'est drôle, Jean Charest souffle un peu le chaud et le froid par rapport à tout ça et laisse planer un mystère par rapport à son avenir si jamais il n'est pas élu à la tête du Parti conservateur actuel. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir l'ambition de se lancer dans autre chose? On n'est jamais au bout de nos surprises avec Jean Charest. C'est un politicien acharné, démené, brillant par ailleurs. Donc, il faut... Je pense qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. Il faut rester attentif.
Il le dit lui-même, il l'a dit hier en point de presse après le fameux débat, la fameuse rencontre au Simili Resto. Il dit que c'est le politicien à qui on a déclaré la fin de la vie politique le plus souvent au Canada. Est-ce que tu penses...
Au Canada, peut-être. Moi, j'aurais tendance à penser que le PQ s'est fait déclarer sa fin plus souvent que Jean Charest.
C'est drôle. J'ai l'impression que le PQ puis Jean Charest sont dans le même panier. J'aurais jamais cru les mettre dans la même catégorie.
Moi non plus, mais on n'est jamais au bout de nos surprises. Moi, je te dis, depuis le début de ma carrière, on m'a annoncé la fin du bloc plusieurs fois, puis on voit quel en est le résultat aujourd'hui. Le bloc est plus fort que jamais ces 15 dernières années. Et même chose avec le Parti québécois, on en a annoncé la mort souvent. On n'est jamais au bout de nos surprises. Il y a une campagne électorale qui vient là. Après deux mandats de la CAQ, qu'est-ce que ça pourra donner? On est qui pour le prévoir, hein? Notre boule de cristal, moi j'aimerais avoir une boule de cristal qui m'en dit plus long parfois, mais ce que je sais, c'est qu'on sait jamais de quoi il fait l'avenir.
Mais là, Sophie, je veux t'entendre, là. Partons le pool. Combien de sièges pour le PQ aux prochaines élections? Là? Si toi, tu considères qu'on appelle trop souvent la mort du PQ puis que finalement ça se réalise pas, je veux avoir tes prédictions.
Je pense pas que la résurrection va venir avant la campagne. Moi, je pense qu'après cette campagne-là, je suis pas convaincue du potentiel de l'actuel chef du Parti québécois. Malheureusement, là, je crois pas que ce soit sous le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon que ce retour en force puisse s'effectuer. Mais je crois qu'il y a des souverainistes convaincus et énergiques qui pourraient décider pendant un second mandat de la CAQ où il peut y avoir un essoufflement du pouvoir, qui pourraient décider de reprendre la tête de ce parti-là et qui pourraient aller chercher un électorat qui est toujours bien vivant, qui existe encore. Je veux dire, des souverainistes au Québec, il y en a toujours un certain pourcentage, toujours un fond de 30% de souverainistes parmi la population. Donc, c'est un potentiel électoral qui, là, se balade entre la CAQ, Québec solidaire et le Parti québécois. Mais tu sais, tout ça, tout cet électorat-là est peut bouger. Donc, on n'est pas à l'abri. Mais si je réponds à ta question et j'essaie de ne pas l'éviter...
J'attendais pour te dire, là, tu me fais une réponse de politicien sans me donner de chiffres. Je t'ai demandé des chiffres, Sophie Villeneuve.
Je doute qu'il fasse plus de 5 députés. Là,
je te trouve généreuse. Justement.
Ouais non, je c'est le scénario optimiste pour moi, 5 députés, mais tu sais, il y a des gens de grande valeur parmi les candidats actuels du Parti québécois. Je pense que Pascal Bérubé va être réélu. Je pense
c'est pas mal le minimum requis là, tu sais, comme Pascal Bérubé dans Matamatapédia là, c'est pas mal la seule certitude qu'ils ont.
Alexis Deschênes pourrait peut-être causer des surprises dans Bonaventure. Écoute, je peux pas me prononcer davantage là.
Est-ce que tu serais une ancienne péquiste ou une péquiste qui déclare également la mort du PQ?
Je déclare pas la mort de personne. Je pense que ça fait 10 ans que je fais plus de politique. Là, je pense que je suis ailleurs. Je suis une observatrice. J'ai plus de carte de membre d'aucun parti depuis 10 ans. Mais j'aurais pas nécessairement envie de renouveler ma carte de membre du PQ à ce moment-ci.
Ah, ça, c'est intéressant. J'imagine qu'il y a beaucoup de péquistes qui ont, en fait, des anciens péquistes qui sont dans la même.